Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 49e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Épisode avec une meuf. Comme annoncé dans l'outro de mon dernier épisode avec Alexis Le Rossignol, je reçois aujourd'hui l'humoriste et chroniqueuse à la bande originale, Morgane Cadignan. Et j'applaudis et remercie aussi pour leurs commentaires sur Apple Podcast, Lila Xoxo, Camille BR, Soso BT, Zaza qui veut ken, Virginie, Anouk Chipejden, Super Nitoan et Sophia Julia. Apparemment pas mal de meufs. Merci de me rassurer sur mes « ouais, ouais, ouais ». Soso me dit « depuis que j'écoute tes podcasts, je me suis rendu compte que moi aussi je faisais des « ouais » quand je discutais avec les gens. » Et bien en fait, figurez-vous que j'ai réfléchi et en fait, ça me vient de ma mère. Quand j'étais petite, ma mère était journaliste, elle bossait à la maison et elle faisait souvent des interviews téléphoniques et moi, quand je faisais mes devoirs dans le salon, je l'entendais répondre à tout ce que disaient ses invités par des gémissements « Donc ça vient d'elle, c'était sa façon de se concentrer, d'acquiescer, de prouver qu'elle était bien là, au tel, pour pas que son invité ait l'impression de parler dans le vide. Moi, quand je fais mes podcasts en IRL, in real life, mes guests me voient. Donc je pourrais juste hocher de la tête et ne pas gémir, mais en fait j'ouvre trop grand les yeux, donc faut que ça sorte quelque part. Faut que mon approbation s'exprime. Et ma mère, elle, figurez-vous, je l'ai remarqué parce qu'on a passé là une semaine ensemble à Deauville, j'ai mis énormément sous la douche. Ça, je n'ai pas pris. Je gémis pas quand je reçois de l'eau. Je gémis quand je reçois du bip. Bref, quant au ouais, c'est ma manière d'encourager les confidences et de ne pas juger l'invité. Je ne suis pas trop branchée contradiction, débat. Enfin, moi, je préfère enlever toute barrière morale et comprendre en fait à fond ce que me dit l'invité. Me mettre à sa place, quoi. Comprendre son point de vue, quel qu'il soit. Enfin, quasi. Maintenant, reco pour un produit, les culottes de règles. Et ça tombe bien parce que cet épisode est sponsorisé par la marque française Miu qui en fabrique. Sa fondatrice, Morgane, est très sympa. Elle est fan du podcast et elle avait envie de soutenir la culture, l'humour, en s'associant au mec que je veux ken. Donc nous, on va commander ces culottes de règles. Déjà en un pour notre santé. Je rappelle que 85% des tampons et serviettes hygiéniques contiennent des pesticides, insecticides et herbicides, du chlore, de la dioxine et du glyphosate. Voilà, ce sont des désherbants, des polluants industriels, comme le Roundup. Donc est-ce qu'on a envie de se mettre du Roundup dans le vagin? Non. Donc on arrête ces conneries. On trouve d'autres protections périodiques, comme la cup ou les culottes de règles. Aussi pour la planète. Chez Miu, tout est fabriqué en France et toutes leurs protections sont réutilisables. Ça limite nos déchets, quant à mon expérience, en toute sincérité. Avant les culottes de règles, que j'adore, j'avais aussi déjà entendu parler de la cup, il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais essayé et j'avais eu du mal à la mettre et surtout beaucoup de mal à la retirer. En fait, elle était coincée, j'avais mis 1 heure et ça m'avait tellement angoissée l'idée de ne pas pouvoir la sortir que je m'étais évanouie quelques secondes. Voilà, j'ai vu des points noirs et pouf. Et j'ai réessayé, figurez-vous, là, samedi dernier, j'ai réitéré l'expérience. Et bon, définitivement, c'est pas mon truc. Voilà, je crois que mon col de l'utérus est trop haut. Mon col de l'utérus prend tout de haut. Voilà. Ma cup était ventousée et elle ne partait pas. J'avais beau me mettre à 4 pattes, faire des squats, la position de squat avec les cuisses comme ça, ou me mettre debout, ou aller sous la douche, me détendre, elle partait pas. Voilà. J'ai cru qu'il fallait que j'accouche, en fait. Je poussais, elle partait pas, la cup ne partait pas. J'essayais de faire semblant de faire caca, vous voyez, pour stimuler les bons muscles, et ça marchait pas non plus, ça marchait un peu. Pof, elle descendait, puis pif, ventouse, elle remontait. Donc j'étais finalement assise sur mes WC, jambes écartées, à souffler, pousser, mettre 1, 2, 3, 4 doigts pour faire sortir ma cup. Et j'avais mis mon iPad sur la litière de mon chat en face de moi et je regardais The Voice. Et en fait, ce qui m'a détendue, c'est de chanter en même temps que les candidats. Et donc je me griffais les parois vaginales pour sortir le machin, je pleurais d'énervement et je chantais et je criais Aline pour qu'elle revienne. Et c'est sur Aline que la cup est sortie. Et j'ai failli vomir, parce que je pouvais pas voir mon sang comme ça dans une espèce de petit cocktail pour Dracula. Je préfère les culottes de règles. Voilà, tout ça pour vous dire, et que vous me croyez, sincèrement, j'adore les culottes de règles. Déjà, celles Mew sont à 96% en coton bio, elles sont douces. Au lieu de salir vos draps, vos vêtements la semaine où vous allez avoir vos règles, vous savez, un peu avant, et bah direct, vous mettez vos culottes de règles. Et puis si vous avez un gros flux, vous pouvez ajouter un petit insert absorbant à l'intérieur qui est vendu séparément. Vous prenez deux culottes. Moi, je vous conseille d'essayer avec la cagole et la glandeuse. Voilà, c'est le nom des deux culottes. Vous mettez la glandeuse la nuit et le matin, vous la nettoyez, vous la laissez sécher. Vous mettez la cagole la journée. Le soir, vous la lavez, vous la laissez sécher. Vous mettez la glandeuse. Enfin, c'est très simple, quoi. Il y a rien de plus simple. Maintenant, il reste plus qu'à me faire confiance et essayer. Au moins, essayer. Essayez et me dites pas « Ah non, mais c'est pas très sexy, les culottes de règles. » Non, mais et votre santé, les meufs, quand vous serez mortes d'un choc toxique à cause d'un tampon, hein, est-ce que vous serez sexy, là? Bon, alors, vous arrêtez de vous mettre des tampons dans la chatte et vous y mettez des bites, voilà, à la place. Parce que c'est super, je recommande, la sensation est beaucoup plus agréable. Et quand vous avez vos ragnagna, culottes de règles, Mew, code promo ROSA15 pour 15% de réduction sur tout le site internet. ROSA15, le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, sans plus attendre, place à Morgane Cadignan.
Hey. Ça va? Tu m'entends?
Oui, je t'entends, et toi?
Bah ouais, je t'entends nickel, t'as super bonne mine.
Merci, c'est un peu la lumière de l'ordi. Hein.
Je n'en crois pas un mot.
Ah, tu sais, la lumière du jour à Paris en ce moment, c'est pas forcément une amie.
T'es encore mince, meuf.
Bah ouais, mais tu sais, on sort pas et il ouais. S'il y a bien un truc qui fait grossir, c'est l'alcool. Et quand tu réduis drastiquement les soirées.
Toi, c'est l'alcool, le truc sur lequel... Parce que moi, c'est le chocolat et ça, je continue toute seule, hein, clairement.
Alors, moi aussi, mais je sais que j'ai l'énorme chance, qui n'est pas donnée à tout le monde, de manger du chocolat tous les jours. Mais moi, j'adore le chocolat. Ouais. Très dosé en cacao. Je mange du 90-100%. Tu vois, vraiment, quand ça a le goût de pneu, j'aime bien.
Ah ouais.
Je crois qu'il te fait moins grossir, celui-là.
Ouais, d'accord, c'est ça ta technique, c'est d'avoir vraiment aiguisé ton appétence en chocolat noir, moins sucré, quoi.
Bah ouais, et c'est dès que j'ai envie de sucre, de prendre du chocolat noir, parce que je me dis que c'est toujours mieux que de te manger un énorme granola.
Grave, et... bah ouais, c'est même pas un gâteau, c'est déjà, c'est pas un féculent quand c'est du chocolat, tu vois.
Ouais, et puis il y a un truc hyper, hyper réconfortant, parce que moi, je sais que je suis obligée de me mettre des petites barrières, parce que si je commence à ouvrir les vannes sucrées, mais j'achète rien. Si j'achète et que c'est dans mon placard, c'est terminé.
Moi, les vannes sont ouvertes, je suis dans le void. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines que je mange de la glace tous les jours. Mmh. J'ai grossi, mais pour essayer de diminuer la prise de poids, j'ai arrêté les féculents. Donc, ça fait genre 3 semaines que j'ai mangé un soir de la pizza. Mais sinon, parce qu'à un moment, j'ai eu une phase où j'ai commencé à manger des pâtes tous les soirs et à manger de la pizza. Puis, je me suis dit, bon, bah, on se dirige tout droit vers l'obésité. Rosa, tu sais, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Puis, je me suis dit, bon, là, il va falloir…
Vu que tu ne manges pas de féculents du tout, tu n'as pas des petites baisses de régime de fatigue?
Non, c'est juste par contre que je me tape, je sais pas toi, mais des insomnies à pisser. Je pisse.
C'est normal, ah ouais. Mais tu sais, j'avais essayé avec un pote en janvier, on avait fait tout le mois avec zéro sucre.
Ouais.
Donc, c'était un mois de détox en janvier, mais zéro sucre transformé, donc ça va de soi. Mais zéro sucre, donc pas de pain, pas de riz, pas de pâtes, pas de céréales, pas de quinoa. Et franchement, j'ai eu un moment, j'ai cru que j'avais le Covid. Et en fait, c'était un truc qui s'appelle la grippe cétogène. C'est que vraiment, quand tu ne bouffes plus de glucides du tout, mon corps, il comprend. Enfin, j'étais...
Bah moi, en fait, le riz, ça absorbe un peu de... Parce que résultat, moi, je continue à manger pas mal de fruits et de légumes, beaucoup de légumes et un peu de protéines. Mais résultat, tu vois, je me fais des asperges, des artichauts. Et toute l'eau des asperges ou des artichauts, au lieu qu'elle soit avalée par un riz ou machin, je vais... une fois et demie aux toilettes toutes les heures, t'imagines?
Ouais, et c'est vraiment en nous écoutant parler de ça où je me dis, putain, nos vies, elles ont vraiment changé. Après, moi, je sais que j'ai 75 ans depuis que j'ai 12 ans. Donc, vraiment, faire des mots fléchés sur une plage et parler d'artichaut toute la journée, mais c'est vraiment la vie que je veux choisir. Mais...
Ce sens de la punch, Morgane, et j'en viens à ton problème, si tu permets.
Allez, j'écoute.
Morgane, mordante, drôle, précise, pertinente. Morgane, sexy, splendente. Morgane ou le sens de la ref. Morgane, les années 90-2000. Morgane à qui rien n'échappe. Morgane, vive, observatrice, rapide. Fulgurance du parcours de Morgane, devenue en quoi 3 ans, une figure incontournable de la nouvelle génération du stand-up français, Morgane, vedette. Notre première rencontre a eu lieu le mercredi 21 février 2018, au point virgule, pour l'audition du 30 points. C'était mon tout premier plateau de stand-up et tu n'en faisais pas non plus depuis très longtemps, peut-être 1 ou 2 mois.
C'était mon deuxième.
Tu te rends compte, ton deuxième, c'est... Ah. Et bref, donc on a commencé l'humour au même moment. Et dès le départ, sous le signe hélas de la concurrence, concurrence inévitable et qui devait forcément entraver, se mettre sur le chemin de notre amitié. Car même si nous avions des affinités, je ne pouvais m'empêcher, et j'ai hâte de savoir pour toi, mais de mon côté, je ne pouvais m'empêcher de me comparer à toi, ou quand je ne le faisais pas, les autres le faisaient pour moi, pour nous, les filles dans l'humour. On a vécu un 30-30 assez difficile en mai ou juin 2018. Au flingueur, tes amis n'avaient pas du tout aimé mon passage, et Tierno m'avait dit que je parlais trop des juifs, pour une fois qu'on ne me reprochait pas de trop parler de sexe. Et tu avais été adorable et consolante, mais tu m'avais dit « Ton point fort, Rosa, c'est le jeu, moi c'est le texte, faudrait qu'on s'entraide. » Or, cette phrase m'avait horriblement vexée. Je sais bien que ce n'était pas du tout ton intention et que c'était un compliment, car oui, étant actrice, j'avais trouvé mon clown rapidement, mais je voulais aussi être reconnue pour mon style, mon écriture. Or, j'ai toujours eu des phrases longues et je t'enviais tes punchs, ton côté one-line qui va très vite à l'efficace, là où moi j'ai besoin de planter un décor parfois lourd, un peu tortueux. Puis, on a joué à la même période à la Petite Loge, de septembre 2018 à juin 2019. Toi les vendredis soirs et moi les samedis soirs, on m'a bien rempli toutes les deux, toute l'année, sauf à l'arrivée du printemps, hein, avril, mai, juin, on s'est retrouvés en concurrence directe avec l'esprit de Santerras, lointain souvenir. Et en juillet, tu es partie à Avignon, moi je l'avais fait un an avant. Tout allait bien, mais la concurrence continuait. Tu étais produite avant moi, tu avais eu l'intérêt de Gérard Cybel avant moi. Moi je jouais au Paname avant toi, mais toi quand tu arrivais, tu te faisais tout de suite remarquer par Kader, tu te retrouvais sélectionnée pour l'émission Génération Paname, à enchaîner les PC, c'est de 20h, à participer à Click. J'étais un peu affolée d'être à la traîne derrière toi. Et je me disais, ok, bon, bah, on est différente, on est différente. Morgane est plus grand public et moi, je suis plus niche. Elle est Click, moi, France Inter. Jusqu'au jour où tu es prise à France Inter. Yeah. En août 2020, la nouvelle tombe. Tu décroches une chronique hebdo à la bande originale. Là, c'est le choc. Je me suis dit, bah non, on n'est pas différente, elle est juste meilleure que moi, voilà, plus évidente. Elle, on l'appelle. Et moi, c'est moi qui appelle, qui demande qu'on vienne dans mon podcast, qui crie pour de l'attention. Voilà. Et je voulais continuer de t'apprécier et vouloir que l'on soit amis, mais il fallait aussi que je t'oublie pour me retrouver. Et j'ai mis ton compte Insta en sourdine, les notifications d'Inter, tout. Car en fait, je me disais, mais tout ce que je prise... être reçu par SML dans « À bientôt te revoir » ou dans le Floatcast, tout ce que je prisais pour moi t'arrivait à toi. C'était comme un sort. Je me disais, mais si je rêve d'aller à Montreux, c'est Morgane qui va y aller, et ainsi de suite. Et il fallait qu'il m'arrive quelque chose dont je n'avais pas osé rêver, comme le livre, pour que je me redécouvre, apprenne à m'estimer, et je te prie de m'excuser. J'espère que tu n'as pas trop senti ma jalousie, ou en tout cas que tu sais, et que j'ai toujours sincèrement voulu qu'on soit amis.
Oh là là, c'était waouh, alors il y a beaucoup d'infos, va falloir qu'on y revienne point par point parce que tu m'as rappelé des trucs que j'avais oubliés, dont 30 de l'espace. Mais je pense que tu, alors, merci déjà beaucoup. Je pense que tu surestimes pas mal beaucoup de choses. Je ne vais pas te donner ma date pour Montreux du coup. Mais... Oui, je comprends, mais déjà, je ne peux pas juger parce que c'est ton ressenti et c'est bien toi qui le ressens, donc je suis personne pour te dire « Ah, ben non, nanana ». Mais oui, mais comme moi, j'ai eu le même sentiment sur d'autres meufs ou mecs avant, comme je l'aurais quand tu vas sortir ton bouquin en me disant « Putain, pourquoi j'ai jamais été capable de chier 3 chapitres ?» Je crois que le truc de la comparaison il est logique et je pense qu'il n'est pas.
Il n'est pas
C'est
mauvais.
ça que chez toi, c'est qu'il est logique, on le fait tous. Et c'est même peut-être un petit peu l'essence même de nos métiers. Mais tant qu'il est fait en pleine conscience, et fait, ok, je me compare parce que c'est normal, parce que je le fais, du coup, c'est pas grave, c'est pas malsain. Mais je
Non.
préfère ça que quelqu'un qui le fait et qui va te jurer la croix et la bannière que ben non, je me compare pas du tout. Évidemment, parce que quand on joue au Paname, on voit votre tête derrière le rideau, on vous voit observer, on vous voit faire exprès de pas dire c'était bien à la fin, alors que objectivement, on sait quand c'était bien. Donc non, non, je comprends, mais
Il y a plusieurs types de comment dire de jalousie et je pense que là où moi il n'y a jamais eu genre de méchanceté, il y avait plutôt une espèce de d'accablement en mode comment dire de truc de panique, de peur panique qu'il n'y ait pas assez de place dans le milieu du stand-up.
Surtout nous les nanas, on nous a beaucoup menti là-dessus. On nous a beaucoup menti sur ce truc de il n'y a pas assez de place pour tout le monde, c'est une découverte par an, il y a une personne qui explose par an. Et encore une fois, je ne parle pas de moi, hein, quand je te parle d'explosion, je vais te parler de Paul Mirabel, de Roman à l'époque, vraiment des phénomènes, tu vois. Et ce n'est pas vrai, tu peux avoir cinq phénomènes par mois si les cinq sont très bons. Alors après, oui, il n'y a pas un festival de Montreux tous les mois, oui, il n'y a pas 1 000 médias où c'est cool d'aller, mais il faut arrêter, il y a assez de place. Et je pense qu'on nous a un peu menti, surtout aux meufs, quoi, encore une fois, où des meufs drôles, il n'y en a pas beaucoup, alors faut se démarquer, alors que, bah si, il y en a plein, en fait. Et on n'est pas tout obligé d'avoir le même style. Et parce que, encore une fois, quoi, ce qu'on fait, ça ne va jamais. C'est-à-dire que toi, tu vas parler de cul. On va te dire, ouais, mais tu parles trop de cul. Moi, j'en parle pas du tout. Et on me demande beaucoup, mais pourquoi t'en parles pas? Parce que ça te gêne? T'es là juste, non, parce que c'est pas mon sujet. Et du coup, oui, t'es obligé de te comparer au bout. T'es obligé de te comparer au bout. Mais ce que je trouve, et j'ai l'impression que je le dis dans tous les podcasts, mais assez fou.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dans tout ce truc de game, de voilà, on est tous là, il faut se démarquer, c'est que je trouve qu'entre meufs dans le stand-up, on a quand même gardé, tu vois, j'en ai parlé avec Laura Domange beaucoup. Ce truc de sororité, et je trouve qu'il faut, tu vois?
Complètement. Et Laura, c'est typique, quelqu'un qui peut avoir des angoisses, tu vois, et se remettre en question. Et tu vois, et tu te dis, en plus, nous, on a commencé au même moment, mais moi, tu te mets à la place de quelqu'un qui était là avant nous, puis qui voit débarquer aussi les nouvelles, et puis nous, machin. Elle, c'est quelqu'un qui... elle est tellement en travail sur elle-même qu'en effet, tu vois, et je pense qu'aussi, elle, comme elle ne cache pas ce qu'elle peut ressentir, il y a en effet ce truc de... mine de rien, j'ai vu plus de bitchage chez les mecs. Tu vois, de dire, ah ouais, lui, il est merdique, etc. Alors que je pense que chez les meufs, il y a presque pas de bitchage, il y a juste une espèce de... tu sais, de l'air qui se coupe parce que tu te dis... je vais pas y arriver et je suis moins bien et je pense que résultat ça plus peut-être le manque de confiance inhérent à certaines nanas, mais au fond du fond t'as quand même l'amitié et t'as quand même le sport quoi, le côté le respect.
C'est ouais, t'as quand même le respect. Et moi j'ai jamais vu une nana, bah tu vois il y avait le plateau plus drôle les filles au Paname le jeudi à 19h. Il y avait des passages qui marchaient très bien, il y avait des passages qui bidaient et on a toutes marché très bien parfois et on a toutes bidé parfois. Mais j'ai jamais vu une nana sortir de là en ayant bidé sans être entourée par trois autres. En lui disant, vas-y, tu t'en fous, c'est pas grave. Moi, je suis jamais partie de là-bas.
Il y avait une très bonne ambiance. Plus drôle, les filles, il y a toujours une très, très bonne ambiance. Quoique certains critiquent ce plateau parce que non-mixité ou je sais pas quoi, que c'était peut-être un peu condescendant de mettre toutes les meufs. Le fait est qu'il y avait une bonne ambiance et qu'on passait un bon moment.
Après, ça se discute. Mais entre nous, entre les meufs, c'était cool. Après, ce truc de se comparer, ça dépend aussi où... Tu vois, on parlait de quelqu'un comme Laura Domange qui est... Je pense que c'est des gens qui sont en paix parce qu'ils ne mettent pas toutes leurs billes de bonheur dans le même panier. S'il y a des gens qui te semblent accablés dans le stand-up parce qu'ils n'y arrivent pas en stand-up à la même vitesse qu'un autre, c'est peut-être que leur seule source de joie et d'épanouissement, c'est ça.
Ouais.
Et à côté de ça, tu écris un bouquin, que tu te maries, ouais, que tu fais des gosses.
Ouais.
Tu vois, un mec comme Verino, par exemple, je crois qu'il a 3 enfants.
Ouais.
Bon, bah, s'il fait une scène, passe pas bien et tu rentres, t'as tes 3 gosses qui te sautent dans les bras, tu t'entends super bien avec ta femme, bah j'imagine que le bide s'est plus rapidement, tu vois.
C'est sûr, ça permet de relativiser, mais ensuite, nous, à la trentaine, je crois que Laura, il y avait aussi ce truc où elle avait décidé qu'à partir du moment où elle tenait des propos féministes sur scène, elle le serait vraiment dans la vie, ce qui est quand même très rare, parce qu'on connaît des gens qui peuvent dire des choses sur scène, puis leur comportement n'est pas forcément adéquat dans le... Voilà, il y a pas toujours... mais elle, en tout cas, ce qu'elle prône, elle l'applique, quoi. Et donc, en fait, je pense que même si elle pouvait ressentir de la jalousie, elle ne pouvait pas se permettre que son comportement aille à l'encontre de ses valeurs.
Mais c'est pas antinomique. Enfin, la jalousie, que tu la ressens, de toute façon, tu ne le contrôles pas, tu la ressens, elle est là. Mais la jalousie n'empêche pas la bienveillance quand tu croises la personne.
Grave. Et puis, en fait, il vaut mieux embrasser et être là, comment dire. Mais cela dit, moi, je suis curieuse de savoir quand même, parce que tout le monde... C'est-à-dire que là, moi, j'ai décrit dans le poème un cas personnel, mais je sais que, allez, 90% des gens qu'on fréquente ont été morts de jalousie quand tu as eu la chronique. Et ce que je veux savoir, et peut-être la question que personne n'ose te poser, c'est comment toi tu l'as vécu en fait ? Parce que tu as dû. Est-ce que tu l'as ressenti ? Est-ce que les gens t'ont caché ? Je veux dire, c'est évident qu'il n'y a pas que les meufs. Moi, je connais beaucoup de mecs qui rêveraient, tu vois. Et donc, quand tout d'un coup on décroche comme ça, parce qu'en fait, il y a juste. Il y a que cette radio, il y a que ce. Enfin, tu vois, il n'y en a pas 150 000 en vrai, tu vois, de radio stylée, des mission stylée de spot comme celui-ci. Et je voulais savoir, pour toi, tout d'un coup, comment tu avais géré ça, ce truc ?
En fait, la chance par rapport à ça, mais qui est une malchance au niveau mondial, c'est que moi, toute cette année de quotidienne, je l'ai fait avec les théâtres fermés et pas de plateau. Donc, je ne me suis pas confrontée directement aux autres, parce que les gens que je vois du stand-up, enfin que là, je vois régulièrement, c'était sont des amis de la vie, en fait. Il n'y a plus cette dimension de c'est des potes du stand-up. C'est des potes que je vois parce que c'est mes potes. Et il s'avère qu'on bosse ensemble ou qu'on fait du stand-up. Mais, et du coup, je n'ai pas traîné au Paname.
Au fin août, septembre, tout d'un coup, quand même, les théâtres ont réouvert et qu'on a joué nos spectacles, je veux dire, est-ce que tu as senti quand même dans la façon que certains avaient de te dire bravo, qu'il y avait une espèce de... Même moi, je me suis dit, comment je dis bravo à Morgane ? Parce que je voulais te dire bravo. Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit genre « bravo, point ». Enfin, tu sais, il faut que je choisisse l'émoji qui soit cool et qui qui trahisse pas le fait que genre, je suis sur mon balcon comme ça en train de regarder le vide. Quoi.
Mais honnêtement, je crois que je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais tellement dans ma tornade de « ouh là là, c'est quotidien, comment je vais faire ?» En fait, je voyais tellement devant moi la charge de boulot que ça représentait. Ouais. Que j'en oubliais l'image que ça avait, que c'était cool, que ça remplirait mon théâtre qui est en plus fermé. Donc, tu vois, j'étais quand même 50% c'est génial, 50% frustration de vivre ça dans une année où du coup, tu peux vivre le kiff qu'à moitié. Après, non, je ne l'ai pas ressenti beaucoup.
Et toi, tout d'un coup, tu rencontres tous ces gens extraordinaires et je voulais savoir comment tu avais géré tes émotions, peut-être est-ce que tu as eu un crush de dingue, genre, je ne sais pas, Blanche Gardin, Jonathan Cohen, Huppert, quelle était genre l'une des rencontres des personnes pour qui tu as dû écrire et où tu t'es dit waouh, en fait c'est la personne dont je suis le plus fan, je sais pas si je vais gérer mes émotions.
Laurent Voulzy.
Ah ouais, mais je comprends.
Parce que c'est une Madeleine de Proust.
Ouais.
Que c'est pas, alors c'est quelqu'un que j'admire musicalement parce que comme je ne sais pas aligner 3 notes à partir du moment où tu me joues 3 notes à la guitare, je t'admire parce que je ne sais pas le faire. Mais c'est quelque chose qu'on écoutait énormément en famille, qu'on écoutait. Et puis il est antillais, donc il chante beaucoup les îles. Donc c'est des trucs que j'ai beaucoup écouté là-bas, que mon père écoutait pas mal, ma mère aussi. Donc ça me ramène un peu à eux, à ma famille, à mes grands-parents. Et je me suis dit, putain, c'est.
Là, il y a une émotion.
C'est fou. Parce que, ouais, parce que belle île en mer, quoi. Parce que depuis que j'ai 4 piges, je l'écoute à l'arrière de la voiture. Et Benabar aussi, qui était un album avec mon père qu'on a saigné. Parce que moi, je voulais écouter Skyrock dans la voiture. Lui, il voulait écouter Inter ou FIP. Et c'est ce que je lui dis dans la chronique. C'est moi, je gueulais. Et le seul album dans la caisse qui nous mettait d'accord, c'était celui de Benabar. Et je trouve ça cool de faire une chronique sur le mec maintenant. Je trouve ça... Je trouve ça joli comme manière de grandir et de...
C'est incroyable, c'est incroyable. Et justement, quand tu fais ces belles chroniques et que tu touches et que tu rencontres les invités, au moment où tu les vois partir, est-ce qu'il n'y a pas un truc où moi, j'aurais peur à ta place d'être en mode « Viens, on reste amis, on échange les numéros enfin, !» Tu vois et comment il faut accepter de les laisser repartir dans leur monde, tu vois?
Ça, je crois que c'est un truc... je pense que ça serait un petit peu plus le cas si c'était une chronique hebdomadaire, mais là, comme c'est tous les jours... En fait, il y a un truc vraiment de...
D'abattage, ouais, t'as pas le temps.
Ouais, non, mais, ouais, mais d'abattage dans le bon sens où tu fais ta chronique, tu fais ton taf, ils repartent. L'émission, elle est à 11h, donc en général, c'est le truc avec lequel les gens qui viennent commencent leur journée. Ouais. Donc, t'as vraiment pas envie de demander un selfie. Enfin, tu vois, le selfie, la dédicace, je le fais quand c'est vraiment un auteur que j'adore ou vraiment quand c'est quelqu'un où il faut que je montre à mon petit frère qu'il y a Ayam qui est venu parce qu'il faut qu'on ait la photo. Mais je me dis, putain, c'est pas pro déjà, tu vois, c'est toujours, ça fait un peu fangirl.
C'est
un peu bof, t'as pas envie d'être relou.
Y a jamais des invités que t'as eu envie de draguer? Genre vraiment pour de vrai, en mode tu fais quoi ce soir?
Bah après, je connais leur vie, tu vois, il y a eu Pio Marmaille, dont je suis amoureuse, je sais qu'il a un enfant et qu'il est marié, donc c'est là, tu le regardes et tu te dis, putain, waouh. mais non, pas. Non, pas spécialement, mais tu les laisses repartir dans leur vie parce que toi, il est midi et demi et que tu repars déjà dans la tienne. Mais je trouve que ça humanise énormément les gens parce que c'est même pas comme les croiser sur des plateaux de télé. Là, ils viennent, ils sont pas maquillés, c'est eux qui ont choisi leur tenue. Ils ont pas, tu vois, tu regardes leurs mains vachement sur la table, leurs bijoux, tu vois, voir de près la petite bague d'Isabelle Huppert et pourquoi elle a mis, et te demander, bah tiens, est-ce que c'est un cadeau de ses enfants? Pourquoi elle a choisi ce vernis de cette couleur? Pourquoi ce col roulé? Et tu sais, ils s'attachent les cheveux un peu à la va-vite. Et du coup, ça devient, d'un coup, la radio fait que ça devient vraiment des gens normaux. Pas comme les croisés sur un tournage où ils ont bien tout sûr. Le staff, les maquilleurs ou machin, tu vois.
Et est-ce que de faire toutes ces chroniques, il y en a certaines où tu as des blagues, tu dis, mais ça, je les mets dans le spectacle? Peu.
Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quand je suis un peu à sec sur des chroniques.
Et tu reprends des bouts de spectacle.
Et à la fois, ça aurait, encore une fois, ça aurait peut-être été le cas dans une année normale où j'avais chronique le matin et Panam le soir. Mais là, tu vois, 5 par semaine, ça passe tellement vite. Qu'une blague que j'ai faite il y a 3 semaines, tu vois, si tu n'as pas un plateau pour... Alors peut-être que en fin d'année, je refais une passe sur tous mes textes en allant à un plateau et me dire « Ah bah tiens, ça mérite d'être testé. » Mais et moi, je trouve ça dur là, de rien pouvoir tester, quoi.
Bah, c'est hyper dur et résultat, quand tu t'imagines reprendre ton spectacle, tu t'imagines reprendre avec le même spectacle ou parfois tu te dis non mais en fait je vais tout chambouler, il faut que...
Parfois j'ai envie de tout raser.
Ouais, pareil. Ouais,
toi aussi?
Pareil.
T'as écrit scène-là pendant cette période?
Non, bah en fait le truc c'est que moi comme j'ai écrit le livre, alors après le truc c'est qu'en fait j'envoyais des pages tous les lundis à mon éditeur et le mardi on se faisait un débrief et en fait il se trouve que sur les pages que j'envoyais il y en a certaines où tu sais c'était un peu, en vrai c'était du stand-up, c'était des blagues, je lui calais ça et là ça n'a aucun rapport, genre t'es en manque de plaisir. Donc il y a des trucs qui n'iront pas dans le livre et que moi maintenant j'aimerais tester et reprendre, mais il y a des sets et c'est là où c'est con, je me dis putain j'aurais bien aimé genre que le fût lieu, que mon passage soit filmé ou avoir des bonnes captations de la rentrée parce que je pense que le, tu vois genre je sais pas, le set du câlin je vais le jarter, je vais en faire un autre, donc je me dis il y a des trucs qui vont mourir où il n'y aura pas eu de bon de peut-être d'image, mais en vrai je me dis bon bah si dans 10 ans je suis connue je ferai comme Blanche Gardin, genre je mettrai l'audio avec une animation quoi, top. mais si non, ouais, je me dis, il y a des trucs où, en fait, ça y est, je les ai trop joués, c'est trop daté. Même le truc le set, tu vois, sur les Ouïghours que j'ai beaucoup joué cet été à la rentrée, maintenant, je me dis, bof, envie de nouveauté, tu vois, parler d'autre chose. Et comme tu dis, je me dis, ouais, mais en fait, si tu peux pas roder ces blagues, c'est quand même plus compliqué parce que tu as des prémices et tu as des idées. Mais ensuite, il faut quand même la punch, elle vient avec la confrontation avec le public. Ouais.
Est-ce que ça te manque?
Ça commence, ouais. Pendant longtemps, ça ne m'a pas manqué. Je ne sais pas pour toi, mais pendant longtemps, c'était un vrai soulagement.
Ouais,
pareil. De faire une coupure, tu vois. De faire une coupure parce que quand même, en fait, on jouait tous les soirs, parfois plusieurs fois par soir. Et C'est en fait c'est... ouais c'est et puis moi j'étais aussi en burn-out, je sais pas aussi tu sais de parce que toi tu as fait une petite pause entre le métropole et la petite loge. Moi j'ai fait 2 ans et de petite loge, tu vois, avant de... donc j'avais fini ma liste de potes et de parents. Et en fait, c'est tout le truc de venez, venez. En fait, je ne sais pas si ce qui m'a pas le plus fatiguée, c'est l'autopromo, tu vois. Venez voir mon spectacle, venez de ramer. Ouais,
de pagayer en permanence, de faire des stories. Des... Ouais. Ouais, ouais.
C'est... Et après, parfois,
ça m'a... T'as pu à le faire, c'est un vrai luxe, hein, de toute façon. Ah, ouais. C'est comme faire Avignon quand ça se remplit tout seul. Hein. Tu ne passes pas le même mois, tu vois.
Bah, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est... après, je me dis que toutes les deux, que toi avec Inter et moi avec le podcast, on a quand même réussi un peu à créer des petites communautés de gens qui viendront voir nos spectacles quand on pourra les reprendre. Mais c'est vrai que là, ça commence un peu à manquer. Je ne sais pas si tu te dis ça. Parfois, je me dis, je ne sais même pas si je referais les plateaux parce qu'aussi, il y avait un truc où j'ai l'impression d'avoir connu sur les 3 ans un moment où ça marchait bien en plateau et puis des moments où ça ne marchait plus du tout et où je me disais mais c'est trop bizarre parce que en fait ce qui marche dans mon spectacle c'est ce qui bide en plateau, ce qui bide en plateau c'est ce qui marche dans mon spectacle, et à me dire non mais en fait c'est pas le même public, c'est pas le, enfin tu vois.
Ouais, puis tu perds un peu ton identité peut-être au bout d'un moment pour faire un truc qui devient très formaté spectacle stand-up alors que c'est très cool de faire du, tu vois, tu disais que t'envies les punchs. Ouais. Bah moi, j'en dis, j'aimerais bien réussir à bosser un truc un peu plus, à faire monter un peu du storytelling, tu vois, raconter des histoires, alors avec des punchs drôles, machin, mais...
Et j'ai senti quelque chose depuis les 3 ans où je te connais, Morgane, une espèce de transition quand même. J'avais l'impression de voir quelqu'un de... Peut-être de plus ambitieux avant et après, comme si ton ambition avait changé et que tu avais eu ce truc de « Certes, je suis ambitieuse, je veux les choses, mais ça ne fuckera pas mon rapport avec les gens. » Et j'ai senti ouais, un truc de douceur, de... Ouais, j'ai vraiment senti un shift.
Je pense qu'il y a plusieurs fois où tu te rencontres dans ta vie. Et moi, ouais, peut-être que la première rencontre avec moi, elle a été il y a... Un an et demi, 2 ans, et j'ai pas aimé tout ce que j'ai vu, mais il y avait un truc de ok, bah c'est toi, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, et t'as ces démons là et je crois que le truc qui a vraiment changé un peu mon quotidien, c'est d'accepter que les choses vont lentement dans ce monde qui va très vite, et d'accepter que mes névroses et mes trucs, mes pensées super limitantes, je ne vais pas les régler en 2 secondes. Et c'est le fameux truc de ne pas combattre tes démons et d'essayer de jouer aux cartes avec, en fait. Elles sont là, les zones d'ombre, elles sont là. Apprends à dormir dedans. Et
donc, en quoi par zone d'ombre ?
Bah, des névroses, des trucs chez toi, tes défauts. Mais pour moi, les zones d'ombre, c'est autre chose que des défauts. C'est... les trucs pas hyper reluisants que tu peux penser, faire ou ressentir ou aimer ou avoir peur de trucs où tu te dis mais non, c'est pas possible, j'ai pas peur de ça quand même, non, je suis pas réduite à ça, je suis pas vieux jeu à ce point là non, mais tu vois, parce que nous on a eu 30 ans dans le moment du MeToo, il y a eu l'émancipation féminine sur plein de trucs, dans un truc de body positive où du coup t'as l'impression que c'est une insulte à toutes les femmes de faire un régime parce que tu trouves que t'as un gros cul et que et qu'il faut grandir haut ce drapeau de mais non, on s'assume, et t'es là bah oui mais comment on fait, parce qu'en vrai je chiale en me regardant le matin, donc j'ai bien conscience que ça c'est à cause de dictates, etc. Tu vois, et c'est comme ce truc de tout ce
c'est fou ce que tu racontes, parce que je me souviens de toi, en effet, au départ, où tu parlais, en effet, le complexe du cul, et c'était marrant parce que j'ai vu cette blague moins marcher avec le moment où tu as vraiment perdu du poids et où tu disais « attendez que je me retourne » et où les gens étaient là « meuf, t'es fraîche, ça marche, la blague. »
Et c'est une pote qui me l'a dit, qui m'a dit « ah non, meuf, tu peux plus faire cette blague parce que c'est limite… »
Pas sympa pour les vrais gros, ouais.
Et je m'en étais pas rendu compte parce que c'est vraiment un poids, bon là pour le coup, au moment où j'allais mal, que j'ai perdu très très vite. Et tu vois, c'est comme tout ce truc du célibat, du couple, de l'horloge biologique. T'as pas envie d'en être réduit parce que t'as même dans les blagues sur scène, parce que c'est devenu un peu ringard, des meufs qui font des blagues sur j'ai 30 ans, je suis célibataire et mes copines elles ont des bébés. C'est un truc un petit peu daté. Et du coup, t'as un peu l'impression que t'as plus le droit de ressentir ça parce qu'on est dans la nouvelle ère de la femme. Mais putain, on a aussi le droit de dire qu'il y a des dimanches soirs qui sont un peu durs, quoi.
Bah bien sûr, évidemment,
ouais,
évidemment.
D'assumer ça, d'assumer que, vous savez quoi, les gars, j'ai beau être une meuf forte, j'ai beau être une meuf féministe, j'ai beau être une meuf qui a besoin de personne, j'ai pas envie de crever toute seule, en fait, parce que moi, je trouve ça joli, le mariage, et que je trouve ça joli d'être avec quelqu'un et que j'ai envie de partager des trucs. Et ça m'a vachement facilité. Tu vois, assumer que t'as du mal à être... Enfin, j'ai pas de mal avec la solitude, mais c'est un exemple général, mais quelqu'un qui assume qu'il aime pas être seul, du coup, quand t'es seul, c'est peut-être plus facile de l'être. J'aime pas ça, mais je le fais parce que j'ai pas le choix et que je vais tout faire pour le vivre bien, mais à choisir, c'est pas mon truc.
Et est-ce que tu sens pas quand même que parfois, ce rapport d'humoriste, ça peut un peu entraver notre rapport à la séduction ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on est quand même aussi vachement obligé de se viriliser, c'est qu'à la fois... faut pas trop, sur certains plateaux, je veux dire, parfois, j'en sais rien, enfin, tu vois, le nombre de serveurs que moi, j'ai eu envie de draguer, que j'ai jamais dragué, parce que j'allais pas me taper un serveur de... Donc, résultat, tu te mets dans un truc où moi, à un moment, cela dit, j'ai de plus en plus dit fuck avec le podcast, où je me suis rendu compte que j'allais assumer de, si j'avais envie d'être dans la séduction, je serais dans la séduction. Et là, je me suis complètement lâchée depuis plusieurs mois. Je suis devenue complètement érotomane. Je crois que je ne suis plus que dans la... Mais, est-ce que résultat de toi, tu vois, de ça y est, de là, d'avoir un peu le spectacle avec ce que l'autodérision et en plus, tu vois, la violence que tu pouvais avoir avec toi, et là, d'être dans les chroniques, d'être dans un truc un peu plus extérieur, ça te permet de te reconnecter à l'envie de séduire, l'envie de sortir, l'envie de montrer une autre facette que celle de la violence du stand-up?
Ouais. Après, le passage que tu as vu là sur le bikini body, c'était à peu près le seul passage.
Oui, t'es plus, de toute façon, t'es beaucoup plus dans l'observation que dans l'autodérision. Ouais. Oui.
J'ai de l'autodérision sur ce que je suis, par rapport au plus la clope, l'alcool, l'envie de faire la teuf.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est beaucoup plus. Moi, comme c'était tellement autodestructeur qu'à un moment, il y avait une espèce de. Moi, c'était surtout, c'était le physique, c'était mon rapport. Moi, je me dépeignais tellement comme... Mais là où ça m'étonnait, c'est que je me disais, putain, après ce que je viens de dire sur scène, je vais jamais ken. Et finalement, faut croire que les mecs t'écoutent pas quand tu parles.
Non, mais je trouve que ça change ton rapport, ça complexifie ton rapport à la séduction, pas tant par rapport à ce qu'il y a dans le contenu de ton spectacle ou de tes chroniques, mais dans le fait même que ça soit ton métier.
Ouais. Ouais.
Honnêtement, ça fait. J'enfonce une énorme porte ouverte, mais évidemment que ça fait peur aux hommes ou aux femmes ou un partenaire en face. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis sans cesse déjà obligée de justifier le fait que je ne suis pas une vanne ambulante.
Ouais.
Et que une soirée où je ne vais pas faire de vanne, arrêtez de me demander si je vais bien.
Ouais.
Parce que je ne suis pas en show.
Ouais.
C'est pas grave, je peux être sérieuse et un peu mélancolique et c'est pas antinomique que d'être très féminine et d'être très romantique.
Ouais.
Parce que t'as dit beat sur scène.
Bien sûr, évidemment.
Un, ça fait peur aux mecs, et deux, les mecs croient, putain, moi le nombre de mecs, tu me mets pas dans un sketch, mais gars, mais
déjà vraiment, tu penses que t'es suffisamment intéressant pour que je te mette dans un sketch?
L'immensité de sujets dont j'ai envie de parler, vraiment, ton cul c'est pas celui c'est chiant. Et puis t'es là, mais si tu dragues une meuf qui est comédienne ou écrivain, il y a toujours ce truc très érotique, très la femme en plus française, la femme française.
Ouais.
Et humoriste, il y a toujours ce côté tagada de soin de toi t'es la bonne copine et coup de dans les côtes.
Ouais.
Tu vois, donc et à la fois, j'ai pas envie de contrebalancer ça en jouant en talon.
Non.
Pour dire attention.
Je suis quand même un petit peu sexy, oui.
Voilà, sous toute cette couche de punch, il y a quand même une.
Ouais, il y a quand même une femme qui s'aime. Ouais, non, ça fait gerber. Ouais. Et quand tu rencontres genre des mecs de date ou quoi, t'es pas affligée aussi par l'absence d'humour, vu qu'en plus, déjà que nous deux, on est marrantes. Et en plus de ça, on traîne avec des gens marrants. Enfin, on traînait. Mais quand t'es sur les. les plateaux, les bassins, les trucs, tu sens, alors, parfois c'est pas les gens les plus marrants en plateau qui sont les plus marrants sur scène, mais bon, quand même, ça s'est banné, ça sent un truc, tu vois, tu discutes, et ensuite tu rencontres des gens qui sont pas là-dedans. Est-ce que toi, tout d'un coup, parfois, est-ce que l'absence de fantaisie, c'est un truc où tu te dis, mais en fait, je peux pas, ou tu arrives à faire un écart?
Je suis pas sûre d'avoir bien. J'ai peur de répondre à.
Est-ce que quand tu rencontres un mec, genre via les applications, et qui n'est pas comédien, humoriste, ou artiste, ou réalisateur, ou scénariste, qui est un mec random, est-ce que le fait qu'il soit pas méga gaulerie, t'arrives à passer outre, ou tu trouves ça chiant?
Alors déjà, je vais être. Enfin, je suis pas à application.
Ouais.
À mon grand dame, non, putain, c'est absolument pas un jugement de valeur de dire putain, j'aimerais tellement que ça soit mon truc.
Ouais, il y a plein de gens qui se rencontrent sur les applis, mais
Je l'ai fait une ou deux fois. Non, ça me glace pas quelqu'un de pas drôle.
Ok.
Qui va me glacer, c'est quelqu'un de pas drôle qui, comme je suis humoriste, va se sentir obligé d'essayer d'être drôle.
Yes.
Et là, tu vis des moments d'enfer, tu vois. Et après, moi, je pense que je suis comme toi, je suis très sapiosexuelle, donc je suis très attirée par l'intelligence. Mais attention, pas forcément. Tu as des gens qui vont avoir une intelligence placée à un endroit improbable. Moi, un mec qui fait un taf, tu vois, qui va bosser dans les catacombes.
Une blague là-dessus. Moi, je me dis, c'est pas tellement l'intelligence que la complicité intellectuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui, en fait, ça se trouve, c'est quelqu'un d'intelligent, mais son intelligence va être froide et hermétique. Mais si c'est quelqu'un, tout d'un coup, ça connecte, et en fait, nos esprits, ses yeux, les miens, une remarque, on se fait pas forcément rire, mais en tout cas, on a envie d'échanger. Je dis déjà, quelqu'un qui t'a envie de parler, c'est tu vois.
Mais moi, je sais pas toi, mais je me lasse très vite des gens, et ça a l'air hyper prétentieux, mais je me lasse de moi-même, je me lasse des situations, des machins, et puis ce confinement, cette année de Covid m'a quand même rendue assez sauvage. Mm-hmm. Donc même là, en soirée, dans des dîners, je de plus en plus vite, j'ai eu ma dose et je suis contente de rentrer chez moi et d'être plus haut, tu vois. Mais ça m'inquiète, parce que de plus en plus tôt dans les soirées, là où ça arrive 3h du matin, là maintenant 23h30, je suis à bon, est-ce qu'on n'aurait pas un peu fait le tour de mon envie d'être ici? Et quand je me retrouve face à un homme avec qui j'ai envie que le temps s'étire, peu importe qui tu es, d'où tu viens, si t'es drôle, si t'es pas drôle, si t'es grand, si t'es petit, mais c'est déjà
énorme.
C'est déjà un peu gagné, quoi. C'est déjà un peu gagné que j'ai pas la tête ailleurs. Et je dis pas ça dans le sens, je suis impossible à séduire, parce que ça paraît très prétentieux quand je le dis, mais je pense que c'est moi qui ai un problème d'attention.
Non, les gens sont teubés. C'est que aussi, tu vois, c'est rare d'être compatible. Moi, ça me rend ouf quand les gens se disent « Ah, bah elle ou lui, de toute façon, il reste jamais toute seule, ou elle ne sait pas rester toute seule. » Je fais « Mais vous faites comment ?» Genre, vous prenez la première personne, parce que moi, la première personne, ça marche pas, quoi. La première personne, il va sortir.
Tout le monde peut niquer, je pense. Quelqu'un juste pour baiser, tout le monde peut baiser. Et après... La question où ça se complique, c'est avec qui tu as envie d'être dimanche soir, quoi. Avec qui tu as envie de... La soirée géniale, à boire de l'alcool, à se finir au Jet 27 à 5h du mat, le mec ou la meuf, tu la trouves facilement. Après, la pizza-bière du lendemain soir, c'est déjà un petit peu plus compliqué de trouver quelqu'un avec qui ça te chauffe, quoi.
Ouais.
Mais même dans les potes, hein, c'est hyper... je veux dire, on est 7 milliards sur Terre... Trouver quelqu'un avec qui ça colle, c'est pas facile, hein. Donc c'est un constat un peu alarmant, parce que si tu pars de ce constat là tu te dis, mais du coup, moi je suis dans le 18e à Paris, ça grouille de jeunes parents en bas de chez moi, et les gens sont des contrôle C, contrôle V, et c'est du copy, parce qu'en plus c'est Paris bobo, donc on porte tous le même kawaii, les mêmes baskets, le même café latte avec la même poussette yo-yo verte. Et tu te dis, si tous ces gens se sont trouvés, c'est quoi, du coup? Est-ce que c'est des gens qui...
Mais c'est beaucoup de la reproduction
sociale. La probabilité à marcher, ou est-ce que beaucoup de gens qui se contentent?
Je pense que c'est de la reproduction sociale. C'est-à-dire que tu as aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les mêmes milieux et qui se disent, en fait, un couple, passer les fusions des premiers temps, c'est des compromis. Donc, comme parfois en amitié, tu vois, pour qu'une amitié dure, même si tu sais que ta pote, elle a des trucs, des remarques, machin, c'est un peu lourd, tu laisses pisser au profit de l'amitié, quoi. Il n'y a pas de truc parfait. J'ai l'impression que les couples, c'est un peu ça. Et que nous, ce qui est compliqué, c'est que faire de la reproduction dans notre milieu en tant qu'humoriste, tu vois, je veux dire, c'est au secours, tu vois. Je veux dire, je veux dire c'est un no-go.
Au secours, ouais. C'est un no-go et c'est un... Et puis, c'est surtout que moi, je n'ai pas envie de parler de stand-up, en fait.
Non.
J'ai pas envie de parler de stand-up sur l'oreiller. J'ai pas envie de parler de stand-up en faisant un bouffer. J'ai pas envie de parler de stand-up en week-end avec mon mec. Donc forcément, si mon mec fait du stand-up, moi, à un moment, quelqu'un qui va ponctuer tous les sujets de conversation en disant hey, « c'est comme dans le spectacle de Bill Burr », ça va... Non, mais ça va vraiment...
C'est trop laid. C'est trop laid. Ouais, et en plus, je sais pas, moi, quand je regarde les humoristes américains, il y en a pas mal qui sont en couple, genre Tom Segura, il est en couple avec Christina Pei, mais tu te dis, eux, je comprends, mais en fait, nos mecs qu'on connaît du stand-up, le problème, c'est que, ou ils ont trop d'ambition, et résultat, ils ont les dents qui règlent le plancher, et tu te dis, genre, oula, je suivrai pas ce degré de... Ou, à l'inverse, ils sont feignants, défoncés, drogués, ils se lèvent pas, ils sont à l'arrache, ils vont jouer. Et donc, tu vois, tu te dis, non, c'est pas avec toi que je ferai un gamin. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, t'as envie d'un mec qui soit naturellement talentueux, qui a un rapport un peu discipliné par rapport à son ego. Moi, ça peut très vite me calmer, un mec que je trouve un peu stylé. Puis ensuite, si je le vois en train de lécher le cul de mon attaché de presse, moi, c'est fini, je n'ai plus d'attirance sexuelle.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, quelqu'un de sain, quoi.
Ouais, quelqu'un de sain. En fait, quelqu'un dont le désir.
Par essence, on n'est pas dans le milieu le plus.
Non.
Avec des gens qui ont le plus, nous compris, régler leurs petits trucs. Hein. On en écrit des spectacles d'ailleurs sur les trucs qu'on n'a pas réglés. Donc, vraiment, je sais pas s'il faut aller pêcher dans la mare où tu te baignes.
Ouais, à moins que. Ouais, ouais, c'est clair, la mare où tu te baignes, sauf si. Ouais, sauf si dans la.
Et à la fois, tu vas pas t'empêcher une belle histoire si. Sous prétexte qu'il fait le même métier, si le gars est là et que...
C'est qui ? Regarde, les humoristes sains qu'on connaît, il y a Thévenou. Thévenou, c'est un humoriste sain. Mais il est maqué. Et je pense que genre, ça n'aurait jamais fonctionné entre lui et moi. Je pense que là, pour le coup, genre, je suis beaucoup trop folle pour lui. Mais qui, à part Thévenou, toi, quels sont les mecs du game avec qui tu dis c'est plus possible de se voir maquée.
En tout cas, demander qui sont les mecs du game et qui t'a couché.
Pas qu'on s'enregistre, ça c'est une discussion qu'on aura quand on se verra en live IRL avec un verre de rosé. Mais non, genre comme ça, genre les mecs avec qui, sans dire ceux avec qui on voudrait pas, mais quels sont les mecs avec qui tu pourrais le plus être maquée. Il n'y en a pas beaucoup.
Oh, hein. Bah, moi, bah, tous ceux qui sont déjà pères, Baptiste Le Caplin, Vérino, m'apparaissent comme des gens assez...
Baptiste Le Caplin, t'as écouté son podcast chez Seb Mélia ?
Ouais, enfin bon, c'est une histoire de couple meuf normale. Hein.
Ouais, c'est... bien sûr, mais c'est aussi le problème, en effet, d'être avec un mec connu, Mimi, et qui résultat, t'imagines le nombre de DM.
Oui, mais pour moi, ça tombe pas dans le malsain. Pour moi, un mec malsain, c'est un mec qui va se comparer à toi parce que tu fais le même métier, qui va chialer tous les soirs parce que sa blague, elle est pas bien, qui va pas endormir, qui va pas réussir à sortir de ça, et du coup, qui va être torturé, machin. Après, un couple qui est ensemble, qui se trompe, il y a de l'attirance, il y a plus d'attirance, ça, c'est, je veux dire, dans les cabinets d'experts comptables, ça se passe vraiment dans le même ordre, hein, je pense.
C'est sûr. C'est vrai que, outre la petite question d'adultère, Baptiste Le Caplin est quand même un très bon candidat. T'as l'impression qu'il est... en tout cas, il est beau, déjà. C'est aussi ce qui ne gâche rien. Hein. Il est vrai qu'il est beau. Et qu'au moins, il a du succès, ce qui est aussi déjà rassurant, tu sais. De ne pas devoir accompagner quelqu'un dans son chemin vers le succès, mais de le prendre déjà quand tout est fait pour lui, tu vois.
Ouais, déjà, c'est un énorme travail de se driver nous-mêmes dans la vie.
Ouais,
donc,
ouais. Vraiment,
Moi, j'ai vraiment pas les épaules pour driver quelqu'un, quoi.
Haroun, il a l'air équilibré, hein, Haroun. Haroun.
Mais alors, je sais plus, j'ai plus en tête tout, parce que j'ai écouté quasi tous les épisodes de ton podcast. Mais t'as plutôt des mecs sains. Alex Vizorek, pour moi, il est très sain.
Oui, Vizorek, il est très sain. VDB, il est tout à fait... VDB, il est trop bien, VDB. Tu vois, les VDB, par exemple...
C'est faisable, hein, c'est des trucs de combinaison. T'as des mecs qui vont être malsains avec toi parce que toi, ce que t'es va faire ressortir une épidermie chez eux qui va pas coller du tout.
Ouais, puis j'en connais des mecs malsains et t'inquiète que je les ai pas invités, mais VDB, tu vois, c'est typique le genre de gars où je me dis c'est une espèce de petite étoile. Et là où c'est moi, où je me dis c'est moi qui manque de talent, j'ai l'impression qu'il y a des meufs qui savent sentir le potentiel chez les gars et qui sont là, lui je le chope au bon moment et ensuite en fait le mec c'est des putains d'étoiles. Moi j'ai l'impression que si on, je suis un peu coconne, j'ai besoin tout de suite des paillettes et j'ai du mal à avoir la capacité de progression d'un gars.
Ouais, bah oui.
Tu vois.
Ouais, je me suis fait la réflexion avec les fruits. avec le légume. J'ai essayé d'écrire une vanne là-dessus sur, tu sais, les avocats.
Ouais.
C'est un avocat, c'est pas assez mûr, pas assez mûr, pas assez mûr, pas assez mûr, et hop, oui. Trop mûr. Et moi, c'est un peu pareil. Parfois, c'est non, c'est pas bien, je m'attache pas, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, et ouais. C'est déjà fini. Tu vois, il n'y a pas eu ce moment, j'ai pas su voir la fenêtre de tir où on aurait pu transformer ça en quelque chose de chouette.
Ouais, moi, je ne sais pas chiner, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai ma petite sœur, elle sait faire des brocantes, aller dans des magasins vintage, j'ai déniché le t-shirt qui est admin et le transformer. Moi, je suis la grosse conne qui claque 300 boules pour un truc beaucoup trop cher et qui, en fait, va, tu vois, et c'est pareil avec les gars. En fait, je ne sais pas chiner la perle.
On n'arrive pas à faire de la fripe de drague.
Je ne sais pas, si c'est de l'impatience. Ouais.
Les Zara dans le rayon du neuf, quoi. Mais
Le Zara de mauvaise qualité et qui a l'air tout brillant comme ça, mais qui au final est tout pourri.
Qui sera mort au bout de 3 lavages. Oui, mais tu l'auras porté un soir et ça sera joli.
C'est vrai. c'est vrai.
Et c'est d'autant plus compliqué dans cette période, je pense.
C'est clair. Mais tu sais que moi, parfois, est-ce que ça te... t'as pas envie de rappeler tes ex et de te dire, putain, lui, moi, ça me fait ça. Il y en a un particulièrement. Non, ça te le fait pas trop?
Non, honnêtement, tu sais, je suis restée longtemps en couple, j'en ai pas 150 avec qui j'ai vécu longtemps. Même après, dans les petites histoires plus ou moins longues, non, c'est passé quoi. Là, il n'y a pas quelqu'un à qui je repense. Non, et tant mieux, hein, franchement. Ouais. Je pense que je le vis beaucoup mieux tout ce confinement du coup.
Ouais, moi, il y en a un architecte avec qui j'étais. Bon, il y a longtemps, quoi. Mais il a vraiment souffert. C'est l'un des rares mecs qui m'a kiffé et que j'ai vraiment, moi, fait souffrir. C'est bizarre, parce que je n'ai même pas parlé de lui du tout dans mon bouquin, mais il y en a déjà.
Ouais.
Mais en ce moment, je me dis, tiens, est-ce que je n'essayerais pas de le rappeler? Mais je me dis, je suis sûre qu'il ne répondra pas au téléphone. Donc, je me dis, il faudrait que je masque mon numéro et que je l'appelle à son cabinet. Parfois, je me fais un film, je me dis, je vois où est son cabinet d'architecte dans Paris, c'est dans le 15e. Bon, déjà, après, c'est là où je vois est-ce que j'ai vraiment envie de le voir, parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le 15e? Et c'est là où je me dis, bon, t'as peut-être pas forcément envie de le revoir. Si le fait que ce soit dans le 15e, que ce soit ça, le truc qui te bloque, quoi. Mais je me dis, ouais... Parfois, j'ai un peu une nostalgie en mode « Ah, viens, on se reparle, j'essaie de... » Et en même temps, en vrai, en général, ça ne sert à rien parce que tu reparles et tu comprends tout de suite, évidemment, pourquoi ça... Enfin, c'est rare que les gens se changent, se trompent, que tu sais très bien.
Ouais, et puis, tu n'as pas
la magie.
Je ne crois que très peu à la reséduction. Je sais que ça arrive, retomber amoureux après 15 ans...
C'est dur.
Ouais, il y a quand même beaucoup d'autoconviction, quoi.
Grave, ouais, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fais-moi un bébé.
Non, mais j'imagine que ça arrive, mais un pourcentage bien moindre que ce qu'on voudrait imaginer. Après, tu retombes amoureux, ça se transforme en tendresse. Et je pense que ça, à 50 ans, why not, à 30... Non, tu veux le feu dans le bide quand même, quoi. Hein. On n'a pas envie de te cramer.
Un petit peu.
T'as pas envie, on n'est pas... J'ai pas envie d'avoir un raisonnement très sage à mon âge.
Ouais,
pareil. Est-ce que ça fasse mal au bout, faut. Allons-y, quoi. Hein, c'est maintenant qu'il faut. Tu vois.
Ouais, faut 2 ans de love. Deux ans de love. Tant que les gamins, moi je dis à partir de. Je dis attendons que les enfants aient 10 ans et là, ok, pour se tromper. Mais. Donc 2 ans de vrai love. 10 ans, allez, 10 ans de fidélité et ensuite on rebat les cartes.
Après, chaque couple, j'imagine, a sa petite recette, quoi. Mais il n'y a pas de. Mais oui, c'est vrai que ce truc de fidélité, de couple hyper normé, fidèle, et de mettre la fidélité et l'amour que tu as pour quelqu'un dans le même panier, c'est un truc qui est en train de. Les cartes sont en train de se rebattre là-dessus, et la nouvelle génération élargit le discours, et c'est peut-être pour le mieux, parce qu'il y a. tellement de couples, je pense, qui étaient des gens qui étaient vraiment faits pour mourir ensemble. Et peut-être qu'aurait dû un peu lâcher les rênes de ce truc-là à un moment. J'en sais rien parce que j'ai pas d'avis là-dessus, dans le sens où je comprends ce qu'ils font, je ne le juge pas, mais je sais pas si j'en serais moi-même capable ou de le faire ou de l'accepter.
Mais en tout cas, je pense que comment on vieillit, en fait. En vrai, si on est des grosses bonasses à 40 ans et que nous aussi, il y a moyen qu'on se tape des gars, je me dis, il faudra en profiter. En fait, moi, ce que je voudrais pas, c'est être avec un mec qui vieillit, devient beaucoup plus frais que moi et me dit, OK, est-ce que je peux te tromper de temps en temps avec des minettes de 20 ans et que je sois là, OK, si tu les vois une fois, pas deux. Mais moi, j'ai envie de dire, OK, mais si on a égalité. Et que moi, un soir, je me tape, tu vois, des gars aussi. Mais ça veut dire pour ça qu'il va falloir faire putain des abdos et des fessiers pour entretenir le machin truc à 40 ans et être des milf, quoi.
Meuf, t'as beau faire une vie d'abdos, t'as toujours le facteur X qui fait que t'empêcheras pas ton mec de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et tu t'empêcheras pas, toi, de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Quelqu'un avec qui tu vas peut-être même accoucher, il y a des erreurs de parcours où t'es bien dans ton couple, avec les enfants ça marche, tu niques encore dans ton couple, tout va bien, mais tu vas tomber sur quelqu'un et tu peux rien et il n'y a rien à faire. Après, tu choisis ou pas de la vivre, l'histoire, hein. Tu peux un peu chialer, puis un peu aller te toucher dans ton bain et puis attendre que ça passe, parce que ça passe toujours, en vrai.
Oui, toujours.
Et tu peux choisir de la vivre ou de pas la vivre, mais tu peux être en couple libre, hein, mais faut accepter de... Ouais, bah, je vais peut-être m'attacher à quelqu'un. Et à la fois, tu vas...
Le couple libre.
Sans tromper ton mec ou ta meuf. Hein.
À mon avis, c'est vraiment une question d'organisation. Déjà, si c'est plusieurs... Si ne pas dormir chez l'un ou chez l'autre. Deux, ne pas revoir la même personne une deuxième fois. En général, il n'y a pas... Tu limites.
Mais je trouve qu'il y a plus de chances de tomber amoureux de quelqu'un dans un dîner d'amis.
Ouais.
Que d'un mec avec qui tu vas coucher parce que tu t'ennuies dans ton couple et que tu choisis un petit mec sur une soirée sur Tinder en disant vas-y, j'ai besoin de...
Mais en fait, c'est pas le petit mec sur Tinder. Et moi, je pense qu'en vrai, ce mec du dîner d'amis, tu tombes jamais amoureuse de lui, t'as juste envie de le ken. En vrai, c'est juste, tu vois, et une fois que tu la ken, est-ce que tu vois, tu vas pas gros continuer à rire à ses blagues, certes très pertinentes, enfin, tu vois. C'est qu'aussi, je pense que... Moi, je me dis, je me compare de plus en plus au mec. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un schéma où j'étais persuadée d'être super romantique, etc. Puis maintenant, quand un mec me plaît, je me dis, oh, je pense que je pourrais trop tomber amoureuse de lui. Non, je me dis, ou alors, t'as juste envie de le ken, Rosa, tu vois. Et
ouais.
T'as là. Tu vois. Et je me dis, en vrai, si tu trouves un putain de mari, de gars avec qui, justement, t'as la complicité intellectuelle, t'as tout, on s'entend trop bien, mais au bout de 10 ans, les phéromones, ils sont dead, et les enfants, ils jouent tout seuls. Bon, tu vois, t'as peut-être envie de temps en temps que ce gars au dîner qui te fait marrer et qui a des jolies dents, en vrai, tu vas pas...
qui a des jolies dents.
À
l'époque de la Renaissance. Ouais, Dragon Ménage.
Il vaut mieux le faire vite, en fait, parce que le moins vite tu le fais, le plus ça prend le temps de mariner dans le cerveau, le plus il y a du manque.
Tu fais monter ta sauce, quoi, c'est clair.
Tout de suite, canne le gars. Et en fait, c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. Paf, au moment où tu tues, c'est fini ensuite. Tu vois.
Ouais, mais tu prends quand même le risque qu'en travaillant, te dire ah merde, ça n'a pas tué le truc, ça a fait que de foutre de l'huile sur un feu, quoi.
Sauf que la plupart des mecs sont des mauvais coups. Et ça, j'ai l'impression que ça équilibre le truc. Parce qu'il suffit que le gars soit pas un coup de ouf, tu vois.
Ouais, ils font le plat, c'est ça.
Tu vois, et juste le gars, il fait une tout pété. T'es là, bon, bah, ça sera pas l'amour de ma vie, tu vois.
Ouais, au moins, oui, ça peut t'aider à...
à relativiser. Ce que tu ne l'as jamais dit au dîner. Quand il était là, en train de parler de... Tu vois, j'en sais rien.
En train de taper du poing sur la table, en train de parler du... de son petit vin naturel en disant pourquoi la gauche n'existe plus. C'est vrai.
Exactement. Voilà. Viens
mon... Derrière, il te fait un cuni avec les dents. T'es là. Ah ouais, bon, écoute. Voter pour Sarkozy.
Cuni avec les dents. Tu te rends compte que d'être dans un milieu aussi masculin que le stand-up, ça fait que genre on a inversé leurs blagues en les mettant comme pour nous. Je sais pas si t'as déjà eu. On t'a déjà fait un cuni avec les dents?
Non. Non, mais en fait, j'essayais d'imaginer ce qui pourrait être le pire cuni du monde. Et je pense que si tu fais intervenir. Les dents, ça doit pas être foufou, quoi.
Je pense que le pire cuni du monde, c'est si le mec meurt pendant qu'il te le fait.
Non, 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 je pense que c'est... Non.
Non.
C'est pire s'il meurt en toi.
Ah ouais,
Parce
parce
que tu
que
le remouves. Il y a quelqu'un qui est vivant qui est rentré et il en sort quelqu'un de décédé.
ensuite, il y a la parano éternelle d'avoir une espèce de death. Genre...
Non, puis avec la rigidité cadavérique, ça se trouve, ça se coince, ça, t'imagines.
La rigidité cadavérique. Tu mets du temps à t'en rendre compte. Ah ouais, ça doit vraiment être énorme temps. Tu te dis, bon, bah, c'est la plus belle mort que tu aies pu souhaiter à ce monsieur, quoi.
Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais non, mourir en faisant un cunni, c'est déjà un, les cunis, c'est souvent trop long. Donc,
Bah, trop long, trop court. C'est, y a un problème de timing lié au cunni, quoi.
non, après, si c'est très court et que tu as joui, c'est que c'était bien fait. Si tu as joui vite.
Ouais, mais c'est très rare, ça aussi, par contre.
Ah, bah, la rareté les choses précieuses, hein.
Et ça devrait être plus, ça devrait être récompensé socialement. Il devrait y avoir un truc genre comme les Oscars ou les Césars, mais un truc d'écunis, de vote anonyme en fait, de
On
femmes.
pourrait regarder un petit truc social d'élégance de chaque personne dans ta vie qui t'a fait un très bon cuni, bon, t'envoie une petite boîte de Raffaello à Noël, quoi.
C'est
Ouais,
clair.
ça fait pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de boîtes à acheter, meuf, parce que comme on l'a dit, c'est rare. En vrai, t'as de la
Ça fait pas
calibrée.
beau. Soit ça fait une boîte, une ou deux boîtes, tous les deux.
Voilà. T'inverses pas la courbe de la bourse de Ferrero, a priori, parce que.
C'est clair. Non.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les questions du questionnaire de Proust, es-tu prête?
Alors, oui.
La qualité que tu préfères chez un homme?
L'intelligence, elle est sous toutes ses formes.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'humour. Mais chez un homme aussi, hein, ceci dit, c'est terrible. C'est dur
Bien
de
sûr, bien sûr. Le principal trait de ton caractère.
Je pense que je suis loyale.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
La tolérance envers moi-même et envers envers avoir la patience de dire enfin de savoir que j'ai des phases et que je vais être chiante, mais c'est une forme de loyauté de rester quand même et dire oui, bah Morgane, vous savez très bien que je trouve ça très beau. Quelqu'un qui dit, oui, bah c'est Morgane, elle est comme ça, mais on le sait, mais d'être quand même là et de m'aimer quand même, alors que c'est ce truc chiant chez moi, établi par tout le monde.
Ouais.
Voilà.
Ton principal défaut.
Je suis de mauvaise foi. Je pense que c'est le principal.
Ton occupation préférée.
Écouter de la musique, parce que je redécouvre le plaisir d'écouter de la musique sans rien faire d'autre, ce qui est un truc qu'on ne fait plus. C'est
C'est ce qui
juste
va avec
poser.
la vieillesse.
Non, mais 13 années 70, très hippie, te poser. J'ai un pote, on faisait ça, te poser dans un canapé. Bon,
Ouais.
quand tu fumes un peu de weed, ça aide. Et juste de faire défiler des sons que tu adores et de rien faire. C'est hyper rare. Et ça, et la plage, j'avoue que c'est mon occupation préférée. Je peux passer 13 heures sur une plage à ne rien foutre.
Ouais, bien sûr. Tu repars aux Antilles là bientôt?
Oh, cet été, il va y avoir un petit stop, je pense, si possible.
Ouais. Mais c'est pas l'hiver l'été là-bas? Non, c'est pas inversé totalement.
Oh, il fait,
Oh.
même s'il pleut.
Tombeau, ouais. Ton idée du bonheur.
Je ne peux pas répondre une plage. Mon idée du bonheur. Il y a un truc très matriarcal dans mon idée du bonheur. Très film français de grande tablée. Il y a vraiment une table de jardin dans le sud en bois, des petites loupiottes dans l'arbre.
Ouais, du jasmin dans le jardin.
Ouais, mais tu vois, j'ai des images un peu, mais tu vois, la clé sous un pot de fleurs avec les copains qui passent. Et,
Ouais.
on sait pas trop, et se réunir. Tu vois, ce truc de oh, bah, il y a toujours une assiette. Je peux venir à quelqu'un, mais tu sais très bien, ici, il y a toujours une assiette en plus, et être un peu
Accueillant.
la matriarche de tout ce petit écosystème autour de toi, et traverser ça comme une saga, je trouve ça. Penser à ça me réconforte. Donc, si en plus il y a la mer pas loin, s'il y a un hamac, des tonnes de bouquins et des plantes, on est bien. Hein.
Ouais, c'est clair. Quel serait ton plus grand malheur?
Pas réussir à aimer ce que je suis. Enfin, de devenir quelqu'un que j'aime pas, pardon. J'ai mis du temps à la. Je détesterais. En plus, avec les métiers qu'on fait, quand je détesterais me réveiller un jour et me dire mais qui est cette meuf odieuse, quoi? Je détesterais arriver à 60 ans, me réécouter en podcast, à parler de mes idées du bonheur, de cette espèce de détachement que je crois avoir, et me rendre compte que j'ai fait tout le contraire, et ça me rendrait très triste qu'il y ait un truc qui se soit perdu, parce que c'est très attrait à mes racines. Donc, quelque part, je me serais un peu oubliée, et je crois que ouais, ça me ferait de la peine.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
La méchanceté. Alors putain, ça fait hyper Miss France.
Non, mais c'est
Mais,
chiant. Mais... Non, non, mais je comprends.
il y a des choses qui justifient le manque de courage, il y a des choses qui justifient la bêtise, il y a des choses qui justifient la stupidité. On n'a pas tous grandi avec la même éducation ou avec le même accès à la culture ou avec les mêmes idéaux, mais il n'y a rien qui justifie que tu te comportes comme une merde avec les autres humains. Et que ça soit gratos, ça me tend énormément. Donc c'est rarement gratuit, hein. Mais juste, t'as des gens, c'est des merdes. Putain, c'est pas dur d'être. En vrai, c'est pas difficile d'être aimable. Et je m'en fous que ce soit pas vrai. Je m'en fous que ça soit faux cul. Je m'en fous que ça soit hypocrite. Moi, enfin, oui, mais je préfère me prendre un sourire faux. Quelqu'un qui me fait la gueule et qui me dise va te faire foutre, et ben sauvons les apparences, tu vois. Faut arrêter avec ce truc de non, faut être franc du collier tout le temps. Non, il y a un petit truc de vernis social auquel je tiens, de non, soyons agréables, soyons doux.
Grave.
Tu vois, la méchanceté gratos de les gens, c'est hyper, mais je crois que je le dis dans le podcast avec Fanny, mais pour moi, c'est hyper beauf, hyper télé-réalité, ce truc de ah, mais moi, la meuf, je l'aime pas, je lui dis tout de go, hein, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas faux semblants. Eh ben si, il y a des faux semblants, en fait, tu vas pas.
J'avoue, ouais, évidemment qu'il y a des faux semblants. Ouais, les gens qui
Ah,
sortent, genre qui se glamourisent, ah, c'est de la franchise, hein. C'est la franchise, et je lui dis que ça ne lui allait pas. T'es là, mais non, toi, je sais pas. Par contre, on fait un accent du sud quand on veut imiter les gens méchants.
non, mais tu vois,
Problématique.
dis tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas, bah, peut-être ne dis pas, tout
Bah oui.
simplement. Le juste milieu, c'est peut-être. Parfois, c'est. L'intelligence, c'est
Ouais, de
de
pas
pas dire. Qu'est-ce que ça te coûte de fermer ta gueule sur quelqu'un qui
ouais.
sur quelqu'un à qui ça va pas faire du bien de savoir que tu ne l'apprécies pas?
Ouais.
Ça, voilà. Donc ouais, non, la méchanceté un peu crasse comme ça me glace. Voilà.
Un don, un talent que tu aimerais avoir.
La musique, putain. La musique, j'aimerais vraiment. Je me sens, tu vois, jalouse et envieuse face à peu de corps de métier. Bon, forcément, un chirurgien, un neurochirurgien, bon, je vais être envieuse, mais il a fait des études. Bon, voilà, fallait bosser. Mais putain, quand tu vois quelqu'un qui attrape une guitare en soirée, tac-tac, qui arrive à te gratter trois trucs, qui a
Ouais,
un
on est
piano.
tellement différentes là-dessus, meuf. Mais moi, ça me dégoûte. Moi, la personne qui attrape une guitare, j'ai envie de prendre la guitare et de le taper avec. Déjà,
Ouais!
je déteste la guitare, je déteste le son de la guitare et je déteste les gens qui font de la guitare. Direct. Alors,
Ah ouais,
c'est
d'office.
surtout les gens qui font de la guitare sur la plage autour d'un feu de bois. Pour moi, ça vient tout gâcher. Juste
Guitare, c'est devenu très cliché, quoi.
Mais... Ah, de... Ouais, puis j'ai l'impression que justement, en général, les gars, ils font de la guitare, ils font que ça. C'est un peu les mecs qui ont des grosses bites. Ils se sont dit, ah bah maintenant j'ai une grosse bite, j'ai plus rien à faire. Les mecs, ils font de la guitare, ils se disent, ah bah je fais de la guitare, puis ils discutent deux secondes avec eux, ils sont teubés la race, mais ils font de la guitare.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont de la guitare. Non, bah, je maîtrise un instrument, mais un truc un peu neuf, genre tu vois, le piano ou le violon, avoir cette élégance-là, j'aurais aimé.
Comment aimerais-tu mourir?
Doucement. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a répondu la noyade? Je veux sentir mes poumons se remplir d'eau. Non, bah... non, j'imagine comme tout le monde dans mon sommeil. Non. Non, j'aimerais vraiment m'éteindre comme une bougie le plus vieille possible. Non, mais. Je sais
pas. Bébé, il a dit, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, un truc incroyable en sautant dans l'avion. Parce que il m'a dit que quand il était petit, c'est quoi ce qu'il m'a dit, que quand il était petit, il trouvait que la meilleure mort c'était genre de sauter d'un avion, parce que comme ça au moins tu voles. Un truc trop chou de son enfance.
Oui, mais... Alors la manière, je sais pas, mais en tout cas dans la forme, j'aimerais bien mourir entourée avec mes proches qui me disent que ça va aller et que je peux y aller. C'est moi, avec les gens que j'ai perdus, j'ai pas pu forcément le dire de leur vivant, ou en tout cas je sais pas s'ils m'entendaient bien, et j'aimerais, j'ai l'égoïsme de demander qu'on
est-ce que vous m'entendez,
ouais, qu'on sécurise la route et que, genre, aidez-moi à partir en paix, bande de bâtards, c'est hors de question que je parte un peu torturée. Non, j'aimerais bien partir, bah tu vois, dans ma chambre, dans ce mas, dans le sud, avec mes enfants, mes arrière-petits-enfants, et qu'ils disent, bon madame, vous avez 103 ans là, faut y aller, et que tout le monde se rappelle de mamie Momo qui était, oh, qu'est-ce qu'elle faisait des bonnes tartes, mais qu'est-ce qu'elle était chiante à la fin. Voilà, après, y a des... la noyade ou la chute d'une haute falaise peut être très romantique, mais c'est un romantisme que je laisse aux autres alors, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ton état d'esprit actuel?
Pressé, parce que je sais pas où on en sera quand le podcast sortira, mais là il commence à faire beau à Paris, il commence à y avoir des petites sensations et des petits goûts de printemps dans les pulls qui se retrouvent autour des tailles et dans les petits verres debout, tu vois, sur les terrasses qui servent encore. Là il y a une petite urgence, mais qui n'était pas tu vois, l'année dernière, au même point, c'était « Ah, ça va être génial, j'ai hâte, machin. » Là, il y a une urgence malsaine, quoi, vitale, de « C'est hors de question qu'on s'en... » Enfin,
ouais, là, il
faut faire un chouette été, quoi. Donc, mon état d'esprit, c'est apaisé, c'est cool. J'arrive à passer des vendredis soirs calmes. Allez, c'est pas grave, on va lire des livres. Il y a des séries chouettes qui sortent. Mais là, ça va. Là... Bon, le code, la charte graphique de Netflix, je l'ai là. Là j'ai envie d'avoir envie de pisser et de devoir le faire derrière une kangou parce qu'il est 3h du mat et j'ai une petite urgence de la teuf. Voilà, j'ai hâte.
Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite? Une phrase que toi, tu te dis qui t'aide à aller bien, quelque chose que tu as entendu ou que tu te répètes ou,
ouais. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et ça m'aide à être tolérante avec moi-même. Mais vraiment, c'est un truc avec lequel je me lève de... S'il y a un truc que tu fais, que tu n'arrives pas à faire, ou que, tu vois, on parlait de s'aimer sur le poids et tout. Ouais. Si tu n'y arrives pas maintenant, c'est que tu n'as pas les outils. Et ça m'aide avec moi-même et ça m'aide à être plus tolérant par rapport aux autres. Et pas, tu vois, on parlait de séduction, donc je prends cet exemple-là, mais un mec avec qui l'histoire marche pas parce que toi t'étais à fond et que lui non, c'est qu'il a, s'il n'y arrive pas là, c'est qu'il n'a pas les outils pour le faire. Donc les gens, ils font ce qu'ils peuvent au moment où ils le sont, avec ce qu'ils sont au moment où ils le sont. Donc c'est encore un truc de lâcher prise. Donc tu peux essayer de t'évertuer à dire ouais, non, faudrait que ça soit autrement. Bah ouais, mais tu peux pas. Si tu pouvais, tu le ferais. Si tu le fais pas, c'est que quelque part il y a un truc qui bloque. Donc ça m'aide à... Après, je suis de nature feignante, donc j'essaye de pas trop me le répéter, parce que si dès que j'ai la flemme d'aller courir, je dis, en même temps, meuf, on fait ce qu'on peut. Donc ça, c'est plus une doctrine qui s'applique à des trucs un peu plus larges et philosophiques que se faire à bouffer ou aller nager. Voilà. Mais en vrai, c'est ça. C'est je crois qu'on oublie vachement que le monde, il est pas... La vie est profondément belle. et profondément douce, et j'en suis persuadée, mais le monde n'est pas dingo. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et on est beaucoup, dans le monde dans lequel on est, faire ce qu'on peut, putain, c'est déjà chômé. À notre échelle, tu vois, c'est on est là, écolibri, machin pour la planète, chacun fait le petit colibri, mais putain, faisons le colibri avec nous-mêmes déjà, on essaye de s'apporter semaine par semaine ce qu'on peut s'apporter et pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Ouais. Mais je dis ça et je dis ça, j'espère que j'aurai changé de discours dans 10 ans et que. Parce que c'est un peu un discours de quelqu'un qui n'allait pas bien avant et qui s'est apaisé, mais j'espère que ça sera.
Ouais, mais c'est génial, c'est trop bien. Enfin, en tout cas, t'as trouvé, tu te rends compte tout l'espace de paix et d'évolution, que tout le chemin, ouais. c'est incroyable. Et sur le, justement, tu dis dans 10 ans, outre le mât dans le sud, professionnellement, c'est continuer le stand-up et éventuellement, t'as une envie d'écrire pour l'image de...
Ouais, j'ai pas... Alors, j'adore le stand-up. Hein, y aura peut-être un deuxième spectacle, un troisième, mais c'est pas des... J'ai pas de réponse construite là-dessus. J'ai pas un appel de la scène et du micro purement stand-up qui fait qu'il faut absolument que ça soit ça dans 10 ans. Moi, le dénominateur de commun à tout ça, c'est l'écriture. Donc, ça sera peut-être d'autres formes d'écriture.
Ouais, peut-être un livre, les chroniques. Tu voudrais continuer les chroniques?
Ouais, après, si ça doit être écrire une série, être scénariste, aider, même être... Tu vois, j'adorerais être assistante pour un dramaturge. Mm. Tu vois, sur une pièce. Tu vois, faire un peu des trucs de théâtre aussi, mais qui ne sont pas forcément joués. Tu vois, tu peux être amené à faire tellement de trucs, de la mise en scène. Oui, faudrait que ça soit dans l'artistique. Hein. Si demain, je me retrouve à écrire des notices d'aspirateur, je pense que je vais mal le vivre. Mais c'est pas dit que ça soit forcément sur scène. Mmh. À voir. Faut que ça soit de l'écriture.
Tu saurais, tu n'as pas besoin de te mettre toujours au premier plan. Tu aurais envie d'écrire pour d'autres, écrire des personnages joués par d'autres.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mmh. Après, là, je suis au moment où j'écris pour moi.
Ouais.
Bah parce que quand tu as passé 1000 castings qui ne marchent pas, à un moment, tu es là, bah fuck, en fait, je vais me l'écrire mon rôle.
Ouais.
Tu peux autant le faire, quoi, c'est cool.
Ouais.
Et toi t'as ce... Mais toi, j'ai pas l'impression que tu es ce truc forcément de la scène non plus.
Si, la scène, j'ai, mais pas forcément, comment dire, pas forcément stand-up tel qu'on l'entend, tel qu'on voit, mais être sur scène, pour moi, ça, je... Moyez veut mourir sur scène. La scène, je trouve que c'est un truc dont je pourrais... Après, ça pourrait être reparticiper à des pièces, des collectifs d'impro, refaire autre chose. Après, cela dit, maintenant que j'ai goûté au stand-up, j'ai du mal à me dire que je vais faire un seul en scène qui soit pas marrant. Je considère ça comme un échec, tu vois. Ouais. De me dire, bon, moi, j'ai essayé d'être marrante, ça n'a pas marché. Autant, ça me va d'être sérieuse dans un bouquin, parce que c'est rare de réussir à ce que les gens se tapent une barre en tournant une page.
Tu sais déjà quand est-ce qu'il sort ?
Écoute, si là il est fini, j'ai envoyé le premier jet, mais si on arrive à commencer à refaire des relectures à partir du 1er mai, ça veut dire qu'il sortira en octobre-novembre prochain.
J'ai hâte d'en savoir plus.
Bah écoute, ouais, moi aussi je te le ferai lire, j'ai hâte d'avoir tes retours et tes conseils et ce que t'en penses. Mais c'est vrai que c'est bon délire.
Un bon projet, hein. C'est un vrai bébé, quoi.
C'est un vrai bébé. Ah, putain, moi ça m'a permis de, en effet, tu vois, c'était vraiment le. C'était le projet qui me manquait, et je pense que c'est pour revenir, pour fermer la boucle sur le poème que je t'ai lu au début, si je crois que j'ai eu cette jalousie pour toi, et je m'en excuse d'ailleurs ce que c'était, mais c'était parce qu'il me manquait, tu vois, une espèce d'étape supplémentaire à franchir, et que même si c'était une étape de passer de la petite loge au point virgule, tout d'un coup, ça continuait, c'était à nouveau toujours la même écriture de stand-up, et je crois qu'il fallait que je me renouvelle à un endroit, tu vois. Et je me disais, et j'imagine que pour toi, de toutes ces chroniques, ça a dû énormément t'enrichir. Et là, tout d'un coup, de trouver aussi un autre espace où je pouvais...
Un espace qui te va bien, je trouve que ça te ressemble beaucoup, tu vois. T'as ce côté très quand même intellectuel, français, parisien, où je suis pas étonnée que t'écrives un livre. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir. C'est qu'il y a quelque chose de très mélancolique, de très romantique, mais au sens 19e du romantisme, tu vois, où ça, ça, ça m'étonne pas que t'écrives un livre.
Après, et je vais me taper des crises d'angoisse, je sais, parce que c'est pas comme le stand-up où tu vois, le stand-up, un soir c'est bien, un soir c'est moins bien, les spectacles on les rôde, on les améliore, on les, tu vois. Là, à un moment, le bouquin il va être sorti, et moi je me tape des moments de, tu vois, de haut et de bas, mais c'est tout un taf, et c'est pour ça que les amis interviennent aussi là-dedans pour te, parfois te calmer, te raisonner, t'offrir des conseils. Ouais. En tout cas, j'étais vraiment trop heureuse de te voir.
Bon, chouette.
Je te remercie beaucoup, ma chérie.
Gros bisous.
Gros bisous.
Merci, Morgane.
Ciao.
Bye.
Et voilà, j'espère que ce 49e épisode vous a plu. Je m'excuse pour le son Zoom qui parfois est un peu bizarre. Normalement, il est mieux. Là, il y a des glitches, en fait, quand on prend la parole en même temps, Morgane et moi. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, ni les répétitions. C'est vrai qu'entre humoristes, on tend un peu à parler toujours des mêmes sujets, comme celui des sets qui marchent en plateau, mais pas dans le spectacle, par exemple. C'est inévitable, en fait. Je me répète parfois, mais j'espère que l'angle de départ, la jalousie, vous a intéressé, et toute la discussion qui en suit avec Morgane, discussion qui en dit long sur la place des femmes dans le stand-up, puis sur les brocanteuses d'hommes que nous sommes ou pas. Est-ce que vous avez chiné votre mec dans une friperie ou est-ce que vous l'avez acheté tout neuf à Zara? Dites-moi tout en partageant cet épisode en story sur Insta. Surtout si vous n'avez pas Apple Podcast et que vous ne pouvez pas laisser un avis et qu'en plus vous êtes un homme et que vous n'avez pas de règles a priori, donc vous ne pouvez pas montrer votre confiance en commandant les culottes Miu. Alors retranchez-vous sur Instagram pour exprimer votre soutien. Je compte surtout sur vous à la sortie du 50e épisode le 17 mai. En fait, je vais essayer d'organiser un grand IG live de plusieurs heures avec plein d'invités le soir et la journée. En fait, je partagerai vos stories, vous me taguerez et vous me direz quel est votre épisode préféré en partageant la vignette de l'épisode à partir de mon feed ou de votre appli d'écoute, Spotify, Apple Podcast. Faisons grandir le podcast ensemble. J'ai aussi envie de lancer une newsletter pour que vous receviez un mail le dimanche soir vers 12h15 dès que l'épisode est en ligne. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la peine? Ça fait un petit plus. Et aussi, j'aimerais proposer des tote bags avec le logo des mecs que je veux ken. Ça peut être joli. Voilà. Bon, j'essaie de devenir une businesswoman, quoi. Et c'est possible grâce à vous. Donc, merci. Merci infiniment d'être au rendez-vous. Je vous embrasse. Attendez, avant de vous laisser, j'ai envie de vous faire écouter quelques sons. C'est mon dernier petit moment DJ. Oh là là là. 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 Bon, et après, la chanson n'est pas incroyable, c'était juste le début. Et attendez, je vous fais écouter autre chose. Un extrait d'une chanson de Benjamin Biolay, que j'aimerais aussi beaucoup inviter dans le podcast, Benjamin Biolay. Je le trouve incroyablement sexy. Et apparemment, il sort avec Anaïs de Moustier, qui est mon sosie, en plus mince. Donc, il y a moyen de moyenner. Putain, moyen de moyenner, cette expression du collège. Bref, je vous mets la chanson. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous embrasse.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.